Alors, j'ai oublié de le faire au tout début, mais je tiens à souhaiter une cordiale bienvenue, particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous vraiment à l'aise dans cette maison. C'est avec plaisir qu'on revoit notre frère Edmond à chaque fois qu'il vient nous visiter. Sentez-vous vraiment à l'aise. Les frères Finet et notre sœur Phoebe qui sont revenus d'un long voyage. Mais ça ne dépassait pas Mons, c'est ça, hein? Ça ne dépassait pas Mons, le voyage. Voilà, voilà. Une dame qui est décédée dans un incendie aussi cette semaine. Hein? C'était dans les journaux, j'ai vu. Ouais. Okay. On ne connaît pas la vie, hein, et il n'y a pas d'âge pour mourir non plus, mais je lisais cette semaine qu'il y a 4 personnes qui sont mortes. Qui a lu ça dans l'écrasement d'un hélicoptère en France? C'est incroyable, hein? Un milliardaire qui venait d'acheter un immense château, signe les papiers, un milliardaire chinois avec un interprète. Il signe les papiers, l'ancien patron et le nouveau propriétaire et l'interprète entrent dans l'hélicoptère. Le pilote d'hélicoptère s'élève dans le ciel et à même pas un kilomètre du château, on ne sait pas pourquoi, l'hélicoptère s'est écrasé. Les 4 sont décédés, quoi. Ouais. Espérons que cet homme-là ne comptait pas sur son argent, mais il n'y a rien, on ne sait jamais à quel moment la mort peut frapper à nos portes. Et le Seigneur nous dit, soyez prêts, veillez, priez, soyez prêts. Vous ne connaissez pas non seulement mon retour, mais aussi à quel moment le Père va vous rappeler devant le trône. Et frères et sœurs, ce matin, eh bien, ce trône, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que ce n'est pas un trône de jugement, c'est encore un trône de grâce, quoi. Et qu'on peut se présenter devant lui, et c'est là qu'on va trouver le pardon. Le pardon, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Venez vous présenter au trône de la grâce, là où se trouve le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et les passages que nous avons lus ce matin nous rappellent que Dieu est pardon et qu'il manifeste sa miséricorde, sa bonté à travers la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, eh bien, j'aimerais faire ressortir 3 mots qui apparaissent dans les passages que nous avons lus, c'est le mot crainte. Hein. Et je pense que la peur, eh bien, elle fait partie de la vie de l'être humain. Et ce, depuis la désobéissance de l'homme dans le jardin. Je pense qu'avant la chute, eh bien, la peur, ça n'existait pas, quoi. Je pense que la peur, c'est aussi une conséquence de la désobéissance de l'homme. Mais peu importe qu'il paraisse être rempli de courage, les gens ont peur de quelque chose. Et personnellement, moi, j'ai peur lorsque je me trouve dans les hauteurs. Non pas tellement que j'ai peur d'être là parce que la vue est incroyable, ni de tomber parce que le saut à l'élastique ou la chute libre constituent des expériences exaltantes. Je vais laisser le saut à l'élastique pour les autres. Mais si je devais définir ma peur, je dirais que ma peur des hauteurs est en fait une peur que j'ai développée depuis que je suis tombé d'une hauteur de 3 étages, lorsque vers 18 ans, je travaillais dans le bâtiment, quoi, pour des maçons. Et je répète que tout le monde a peur de quelque chose. Hein. Les femmes particulièrement ont peur des serpents, ont peur des araignées. Je sais même que ma femme à la maison, quand elle voit une araignée, elle a l'impression de voir un éléphant qui vient d'entrer. Et c'est à moi d'aller écraser ou aller enlever l'éléphant. Il y a un mot pour ça, l'éléphant, non, ouais. Enlever l'araignée, quoi. Il y a un mot pour ça, la peur des araignées, hein? Ouais. Bon, je ne le connais pas, mais... Pardon? OK, merci. Il y a aussi la peur de tomber malade, parce qu'on ne sait pas, finalement, des fois, on a un petit malaise et on ne sait pas si ça peut avoir des portées, des conséquences plus grandes. La peur aussi d'avoir des difficultés financières. La peur de vieillir aussi. La peur de mourir aussi. Je connais une dame au Québec qui était une de nos clientes à une certaine époque et qui s'empêchait de dormir de peur de ne pas se réveiller. Vous avez déjà fait cet exercice-là? Bien, faites-le pendant un mois, vous allez avoir les cernes rendues jusqu'ici, vous n'avez pas besoin de vous maquiller, quoi. Hein? Elle s'empêchait de dormir de peur de ne pas se réveiller. Ça, c'est ne vraiment pas savoir où on s'en va, hein? Ah ouais. Donc, les gens sont animés de toutes sortes de peurs, quoi. La peur de voir apparaître des cheveux gris. J'ai un fils qui est venu me trouver et me dire, « Hey, papa, c'est-tu des cheveux gris, ça? » Parce qu'on a l'impression, quand on est jeune, qu'il y a une tête châtaine, blonde ou noire, que les cheveux gris, c'est pour les vieux, quoi. Et les cheveux gris, les petits poils gris qui apparaissent là, un petit peu éparpillés, bien, nous rappellent qu'on entre dans une autre phase aussi, qu'on change de phase, qu'on vieillit. On vieillit comme tout le monde, quoi. Hein? La peur d'être rejeté, c'est une des grandes peurs aujourd'hui, quoi. La peur d'être rejeté. la peur de vivre des émotions, des déceptions, la peur d'être oublié, la peur d'être rejeté, la peur d'être oublié, je pense que c'est les deux grandes craintes qui animent notre monde aujourd'hui. Nous pouvons même voir dans la Bible des hommes qui ont été paralysés par leur peur. Je pense à Abraham, qui a pris peur quand il est entré en Égypte avec sa femme, et qui a fait passer sa femme Sarah pour sa sœur. La peur de Jacob, qui était saisi d'angoisse lorsqu'il a appris que son frère Ésaü marchait à sa rencontre avec 400 hommes. Le texte nous dit qu'il était saisi d'angoisse, quoi. Moïse, qui a pris peur lorsqu'il a vu que certaines personnes savaient que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Le texte biblique nous dit, ce sont des mots qu'ils utilisent, la peur, angoisse, peur. Les disciples qui ont pris peur face à la tempête qui s'éleva à la mer, au point de menacer la barque d'être recouverte par les eaux. Frères et sœurs, au Québec, lorsque vous passez devant un comité de sélection comme candidat policier, si vous dites que vous n'avez peur de rien, c'est déjà un motif extrêmement grave pour être refusé. Parce qu'ils savent très bien que tout le monde a peur. C'est humain d'avoir peur. Dans la police, chez nous, quelqu'un qui est trop brave, qui a peur de rien, c'est un danger non seulement pour la population, mais aussi pour les gens qui vont travailler avec lui. Il peut mettre leur vie en danger. On a tous peur. Mais on doit apprendre chacun à contrôler notre peur. Ça, c'est différent, ça. Mais on a tous peur. Rien n'a changé. Plusieurs sont encore maintenus captifs par leur crainte. Et cela s'avère souvent vrai, même pendant la période de Noël. Un temps pourtant qui devrait nous permettre de se réjouir, d'être heureux et totalement centré sur Christ. Nous craignons de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas rencontrer les attentes de tous et chacun. Nous nous inquiétons au sujet du repas que nous allons préparer ou de savoir qui sera là, qui ne sera pas là. Nous donnons l'impression souvent d'avoir peur de tout. John McNeill, un évangéliste et prédicateur écossais, a raconté que durant son enfance, il devait marcher sur une longue distance chaque soir pour rentrer à la maison. Il devait emprunter un chemin qui traversait une forêt bordée d'arbres et aussi suivi par un grand ravin. Il marchait, il n'y a pas d'éclairage dans la forêt. Il marchait à quelques mètres de lui. Il y avait un ravin qui longeait le chemin qu'il devait emprunter. Et les gens de la région racontaient qu'il y avait des animaux sauvages dans cette forêt, des bandes de voleurs qui étaient souvent vus et qui attaquaient ceux qui osaient s'y aventurer. Et à chaque fois qu'il passait par cet endroit, une grande peur s'emparait de son cœur au point d'en avoir la chair de poule. Il dit, « Je me rappelle qu'une nuit, alors qu'il faisait particulièrement sombre, j'ai entendu quelque chose ou quelqu'un qui se déplaçait lentement vers moi. J'étais certain que c'était un voleur. Puis il a entendu une voix au loin, dont le ton lui donna des frissons dans le dos. Je me suis dit, c'est terminé pour moi. Puis la voix se fit à nouveau entendre. Et à ce moment-là, j'ai pas entendu la voix de quelqu'un qui disait, « John, est-ce toi? » C'était mon père. Il avait appris par ma mère que j'avais peur lorsque j'empruntais ce chemin, et il était venu à ma rencontre. C'est une parole venant du père de John McNeill qui a apporté la paix à son cœur angoissé ce soir-là. Frères et sœurs, mes amis, si vous passez par des moments angoissants ce matin, vous avez besoin, comme moi aussi, d'entendre une parole venant de notre bon Père céleste. Amen. Une parole qui est capable de chasser vos craintes et neutraliser ce qui vous tracasse. Nous avons cette parole devant nous ce matin. Et cette parole, c'est « Ne crains rien, car rien n'est impossible à Dieu ». Avez-vous cette conviction dans votre cœur ce matin? Tout est possible pour celui qui croit. Et la seule façon de rendre possible qu'on puisse croire que tout est possible pour celui qui croit, c'est pas juste d'acquérir une connaissance de la parole, mais c'est de mettre en pratique cette parole. Et on va voir que tout est non seulement possible à celui qui croit, mais c'est possible à celui qui croit parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la seule façon de voir Dieu agir dans nos vies, eh bien, c'est d'essayer de mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne dans sa parole, ce que le Seigneur a écrit, ce que le Seigneur a écrit pour nous, quoi, de mettre en pratique dans sa parole. Il est très difficile pour nous de croire, de penser ou de s'approprier ces paroles. Tout est possible à celui qui croit si on ne pratique pas notre vie chrétienne, quoi. Cette parole, elle devient réelle et efficace dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on met en pratique notre vie chrétienne, on voit Dieu qui, le Dieu de l'impossible qui agit à travers ses enfants. Dieu a envoyé à trois reprises, ici dans le texte, on a vu ce matin que Dieu a envoyé à trois reprises des anges sur la terre avec des messages reliés à la naissance de son fils. Et à chaque fois, ils apportaient des nouvelles qui troublèrent le cœur de leurs auditeurs, et à chaque fois, ils prononcèrent ces paroles « Ne crains rien ». Prenons quelques instants ce matin pour examiner leur passage, leur message, et regardons ensemble ce que signifient ces paroles « Ne craignez point ». D'abord, « Ne craignez point », versets 26 à 38 du chapitre 1 de l'Évangile de Luc. « Ne craignez pas, car Dieu pourvoit. » Amen. « Ne craignez pas, car Dieu pourvoit. » Les versets 26 à 38. Et nous, ici, nous parlons de la providence de Dieu. Et là, nous parlons d'un Dieu qui pourvoit aux besoins physiques, matériels et spirituels de ceux qui lui appartiennent. Et que malgré les apparences, frères et sœurs, il veille sur vous en toutes circonstances. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes, » dit le psalmiste. « L'Éternel est pour moi. » Et ça reflète bien une parole qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Hein? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Le psalmiste, il avait compris ça dans le psaume 118, 6. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. » Frères et sœurs, que peuvent vous faire les hommes si Dieu ne le permet pas? Pas vrai? Je suis convaincu que je l'avais fermé. Désolé. Frédéric, il m'a dit une fois que je ne pesais pas assez longtemps. Et c'est vrai, je n'ai pas pesé assez longtemps, il n'était pas fermé. Qui m'appelle à 11h15 ce dimanche matin? Ne craignez pas, car l'Éternel est pour vous. Versets 26 à 27, le sang-froid manifesté par Marie ici. Remarquez, lorsque Gabriel apparaît à Marie, elle a probablement 14 ou 15 ans, nous disent les commentateurs. Pas plus vieille que ça. Hein? Les gens ne se mariaient pas à 26, 27 et 30 ans à cette époque-là. Hein? Ils se mariaient à 14, 15 ans. Hein? Moi, ma grand-mère qui aurait maintenant 100 ans aujourd'hui, eh bien, elle s'est mariée à 14 ans. Hein? Son père est tombé veuf, il avait 5 filles, il était bûcheron, il partait 6 mois par année dans le bois. Et quand on a enterré la mère, eh bien, le père a réuni ses 5 filles, il a dit « Je vous donne 2 semaines pour vous marier, sinon je vous place. » quoi. C'était comme ça à l'époque, hein? C'était comme ça. Ils devaient gagner leur vie. Il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'aide sociale. Et ils devaient retourner dans le bois pour travailler un autre 6 mois. Et finalement, ma grand-mère, ben, elle a pris le fils du voisin, le cultivateur, le fils du cultivateur, et s'est mariée avec, quoi. Et ils ont eu plusieurs enfants. Je ne sais pas s'ils ont vécu heureux, mais en tout cas, l'histoire dit qu'ils ont eu plusieurs enfants, quoi. Alors ici, c'est fort possible que Marie avait, selon les commentateurs, plusieurs commentateurs, c'est possible que Marie avait probablement 14 ou 15 ans quand, pour la première fois, il y a un ange qui vient la rencontrer. Elle a sûrement grandi, elle aussi, à faire des rêves romantiques que les jeunes filles de son âge ont fait depuis la nuit des temps. Des rêves de mariage, de maison, de famille, de fonder un foyer. Elle était même, le texte nous dit qu'elle était même fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Et elle s'apprêtait à se marier avec lui. Selon le texte, elle était demeurée pure, elle vivait étroitement avec le Seigneur et cela se manifestait dans la vie de tous les jours. Marie avait, apparemment, tout prévu et un brillant avenir l'attendait avec l'homme qu'elle aimait. Nous préférons, frères et sœurs, nous préférons tous que nos vies se déroulent exactement comme nous l'avons planifié, mais il arrive souvent des circonstances imprévues qui dérangent les jours paisibles de notre vie, qui nous paraissent peu nombreux lorsque nous les comparons aux jours d'épreuves que nous traversons régulièrement. Et pourtant, nous savons que si nous sommes fidèles au Seigneur, et malgré les apparences, eh bien, il veille sur nous. Il veille sur nous en toutes circonstances. Regardez les versets 28 à 37. Lorsque Gabriel fait cette annonce à Marie, le défi qui se trouve devant elle, quoi. Lorsque Gabriel fait cette annonce à Marie, sa vie est immédiatement chamboulée. Tous ses projets, quoi. Dieu, je ne dirais pas que Dieu prend plaisir à défaire ses projets. Mais Dieu veut l'utiliser pour accomplir son plan. Et peu importe les projets qu'elle va faire, Dieu veut se glorifier à travers Marie. Vous savez pourquoi c'est un défi pour elle? Sa vie va être chamboulée, pourquoi? Parce que Marie, elle sera appelée à porter la honte. Marie, elle sera appelée à subir des reproches. Marie, elle sera appelée à être humiliée pour la gloire de Dieu. Il faut penser, écoutez, aujourd'hui, c'est courant que les gens couchent ensemble avant le mariage. C'est courant que les gens vivent dans la débauche aujourd'hui. C'est normal, quoi. Mais à l'époque de Marie, tu risquais de te faire lapider, quoi. C'était sérieux, quoi. C'était vraiment sérieux. Elle est appelée à recevoir le plus grand honneur qui, pourtant, qui puisse être jamais accordé à une femme, mais en même temps, cet honneur va l'amener à subir le regard accusateur de ses semblables. Lorsque ça ne va pas dans nos vies, frères et sœurs, comme nous l'avons planifié, il est facile d'avoir peur face à l'inconnu. Pourtant, Dieu permet souvent qu'il arrive des choses dans ma vie et dans la vôtre qui seront difficiles à supporter et à comprendre. Mais Dieu permet que ces choses arrivent afin que nous puissions progresser en lui et que nous en venions à le connaître davantage. C'est un début de Dieu, parce que derrière les circonstances difficiles, derrière les épreuves, Dieu, le but premier de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et Paul nous rappelle dans Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et on grandit à travers ça. J'aimerais bien vous dire ce matin, acceptez le Seigneur Jésus, vous allez être heureux, plus de problèmes, jamais de problèmes. Mais ce n'est pas l'Évangile. On en a parlé mercredi à l'étude biblique, quoi. Non, c'est une promesse du Seigneur, la persécution pour ses enfants. C'est une promesse. Mais en même temps, on voit la main de Dieu qui protège ses enfants. On voit la main de Dieu qui protège ses enfants et on voit la main de Dieu qui se glorifie à travers ses enfants. Et ça veut dire quoi, le mot glorifier en ce moment-là? Ça veut dire, on voit que Dieu est présent, quoi, dans la vie de ses enfants. On voit que Dieu agit avec puissance dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Parce que les gens manifestent le caractère de Jésus-Christ, quoi. Et ça, ça fait partie de la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier à travers ses enfants. Et j'espère que vous avez cette conviction dans votre cœur ce matin, que Dieu veut se glorifier à travers vous. Amen. Malgré les circonstances, malgré les épreuves. Lorsque nous traversons ces moments difficiles, il est facile de remettre en question le Seigneur et son jugement. Il est toujours facile de tout remettre en question, mais il est beaucoup plus noble de se conformer au Seigneur et de lui faire confiance. Car voyez-vous, il y a un élément incontournable dans la vie chrétienne, c'est celui de porter sa croix. Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Ce n'est pas des versets qui nous attirent à méditer, porter sa croix. Il n'y a rien de glorieux dans porter sa croix. Hein? Mais Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Êtes-vous prêt à passer par là où je suis passé? C'est une promesse du Seigneur. S'ils m'ont haï, dit Jésus, ils vont aussi vous haïr. Pourquoi? Pas parce que vous faites le mal. Jean chapitre 3. Parce que vous mettez en lumière ce qu'ils font de mal dans les ténèbres. Et vous ne le faites pas d'une manière personnelle, vous le faites en citant les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'accuser les gens à travers votre Évangile. Vous faites simplement proclamer l'Évangile et ça met en lumière, finalement, la condition de l'âme, du cœur de l'homme. Et les adultes, on n'aime pas. On n'aime pas que des gens viennent fouiller dans notre cœur et mettre en lumière ce qu'on garde souvent secret, qu'on est seul à penser qu'on est seul à connaître. Les adultes, on n'aime pas ça. Les enfants, c'est comme des éponges, ils boivent. Mais nous, les adultes, ça nous insulte, quoi. Et souvent, les gens réagissent fort à cause de ça, quoi. Parce que Dieu atteint leur cœur et Dieu met en lumière des choses qu'ils devraient mettre en règle pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ils refusent, quoi. Il n'est nulle part écrit, que la vie chrétienne sera facile, mais les résultats finaux valent plus que les épreuves endurées dans cette vie. Le secret pour survivre lorsque nous travaillons des périodes difficiles, c'est d'apprendre à faire entièrement confiance au Seigneur. Et un de nos modèles ce matin, c'est Marie, quoi. Frères et sœurs, une jeune sœur chrétienne qui travaillait dans une boulangerie et qui gagnait un maigre salaire pour le travail qu'elle accomplissait, trouvait toujours le moyen d'être radieuse. Un jour, une dame aisée qui avait un regard très négatif sur la vie lui dit, « Tu es heureuse aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il pour plus tard? » Supposons que ton employeur ferme ses portes et que tu te retrouves sans travail. Ou supposons que... Et là, la jeune fille, elle l'a arrêtée tout de suite. Elle lui dit, écoutez, chère dame, moi, je ne vis pas sur des suppositions. Je vis sur des certitudes. Et ma certitude, c'est que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Et on vit dans un monde, écoutez, qui ne marche que sur des suppositions. On a un météorite qui a frôlé le soleil, apparemment qui n'a pas résisté, qui a été détruit. On en a fait tout un drame. Et là, on vient, la science vient nous sortir qu'il va y avoir un autre météorite dans 500 ans, qui lui est encore plus gros, qui risque de détruire la Terre plus que l'autre. Il y a des gens qui vont vivre là-dessus, quoi. Et qui ne seront pas là dans 500 ans. Hein? On a besoin de stimuler les gens dans le monde dans lequel on se trouve, parce qu'il n'y a rien d'encourageant. Et frères et sœurs, la vie chrétienne, elle n'est pas construite sur des suppositions, elle est construite sur des convictions. Chapitre 1, verset 38, « Malgré la honte qui l'attendait, malgré l'humiliation qu'elle subirait, Marie était prête à soumettre sa vie à ce que Dieu voulait pour elle. En agissant ainsi, elle donne un exemple d'obéissance et de tout et de soumission que nous avons tous besoin. Quoi. Nous sommes aussi, nous, appelés à nous soumettre à la volonté de Dieu dans tous les détails de notre vie. Nous ne devons jamais craindre la main providentielle de Dieu, car il ne nous fera jamais mal. Et indépendamment de ce qui peut survenir dans nos vies, nous pouvons être assurés que Dieu va l'utiliser pour se glorifier et pour nous aider à en connaître davantage sur lui. Moi, je peux dire que ma relation n'a jamais été aussi proche avec Dieu dans les pires moments de ma vie. Il y a quelqu'un d'autre qui peut lever la main ce matin? Ah oui, hein? Ouais. Parce que quand tout va bien, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, hein? Dieu n'est pas nécessairement le premier, il peut être le centième sur la liste, hein? Sur la longue liste des priorités. Mais quand on est coincé dans un lit, quand on vous apprend que vous avez une maladie grave, ah, là, oui, on va la rechercher. Et pourtant, Dieu, il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Dieu provoque des choses dans nos vies simplement pour qu'on puisse se rappeler qu'il doit occuper la première place. Qu'il est aussi un Dieu jaloux qui ne veut pas, se permettra jamais de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. On a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu qui est grand. Et on vit dans notre monde occidental où on n'a rien à se plaindre. La seule chose sur laquelle on peut se plaindre, c'est de ne pas avoir ce qu'on veut. Par égoïsme souvent. Moi, je regarde la Belgique, je ne suis pas convaincu que la Belgique est en crise par rapport au reste de l'Union, quoi, de l'Europe. Il y a des pays qui sont au bord de la faillite en Europe. On mange quand même 3 fois par jour, quoi. Est-ce qu'on remercie le Seigneur pour ça? On a quand même un toit, quoi. On n'est pas menacé d'être. On n'est pas menacé d'être saisi. En Grèce, les pauvres monsieur, les pauvres pensionnés là, qui ont vu leur caisse de retraite, leur pension coupée de moitié, quoi, sans préavis, parce que le gouvernement n'a plus d'argent dans les caisses. Il y a des gens qui se suicident, quoi, parce qu'ils sont plus capables d'arriver à payer leurs taxes. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est grand. Et indépendamment de ce qui peut nous survenir dans nos vies, il faut être assuré que Dieu va l'utiliser pour se glorifier, pour nous aider à en connaître davantage sur lui. J'aime bien l'exemple de Joseph, hein. Joseph qui était aimé de son père, qui occupait une place particulière dans sa famille, quoi. On ne trouve rien de mal dans la vie de Joseph, quoi. Et pourtant, Dieu va permettre qu'il soit vendu par ses frères comme esclave et passer les 13 prochaines années de sa vie, soit à travailler comme esclave ou à vivre en prison. Pourtant, à la fin, Dieu va démontrer que son plan était non seulement le bon plan, mais le plan parfait pour Joseph, et que malgré tous les ennuis qu'il a connus, qu'il a vécu, il avait eu raison de faire confiance en toute chose à Dieu. Il pouvait dire à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Mais quelle leçon Joseph a dû apprendre? Ouais. Il a dû apprendre à pardonner Joseph en prison. Il a dû apprendre à pardonner aussi à la femme de Potiphar qui avait sali sa réputation. Il avait besoin d'apprendre cette leçon de pardon, sinon il ne serait jamais monté sur le trône de Pharaon, quoi. Si Joseph avait appris cet enseignement sur le pardon quand il a vu ses frères, il les aurait fait tous couper la tête, quoi. C'était l'occasion parfaite pour se venger. Il a voulu les amener à la repentance à travers ce qu'il a fait, quoi. Ce qu'il a refait. Ça, c'est un vrai leader, ça. Ça, c'est un leader selon le cœur de Dieu. Tu ne peux pas marcher sur tes capacités naturelles pour réagir comme ça. C'est Dieu qui t'a formé. Tu es allé à l'école de Dieu. Joseph, c'est un leader selon le cœur de Dieu. Moïse, c'est un leader selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu a voulu se débarrasser de son peuple, il aurait pu... Ah, oh, Seigneur, tu as vu comment moi je souffrais, hein, comment il faisait souffrir ce peuple-là. Non, il va plaider, quoi. Ça, c'est un leader selon le peuple, selon le cœur de Dieu. Seigneur, as-tu pensé ce que les païens vont dire? Hey! Seigneur, ton nom qui est saint, as-tu pensé ce que les païens vont dire? Tu les as juste fait sortir pour les détruire? Seigneur! Ça, c'est un leader selon le cœur de Dieu. Ouais. Ne craignons pas, gardons nos yeux, non pas sur ce qui nous semble être impossible de réaliser, mais sur celui qui peut tout, le Dieu de l'impossible. Amen. Deuxièmement, Matthieu, je vais te tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Les versets 18 à 19. La douleur ressentie par Joseph. On vient de voir le cas de Marie, hein? Planifie une belle vie. Mais tout comme Marie, frères et sœurs, hein? Matthieu chapitre 1, verset 18-19, Joseph était sur le point de vivre tout ce qu'un juif pouvait rêver à cette époque. Il était sur le point de se marier à une jeune fille pure, qui était fidèle à Dieu. Tout était en train de se mettre en place pour lui. Puis arrive la nouvelle qui va briser sa vie, détruire ses rêves et jeter par terre tous ses espoirs. Marie était enceinte et ce n'était pas de lui. Avec ses rêves brisés, ses espoirs détruits, sa fierté perdue, sa vie semble être foutue. Pour Joseph, frère et sœur, il apparaît n'y avoir que deux solutions possibles. Soit de pouvoir divorcer tranquillement de Marie et l'envoyer au loin, le plus loin possible, sans que personne ne sache, qu'elle puisse accoucher là-bas, qu'elle revienne. Ou, il pouvait divorcer de Marie publiquement et de ce fait, l'amener à être ridiculisé et humilié publiquement. Avec toutes les conséquences que je vous ai dit tantôt, c'est une sentence de mort. C'est une femme qui n'est pas mariée, qui avait des relations sexuelles avant le mariage. La vie de Joseph, frères et sœurs, a été littéralement détruite par les nouvelles de la grossesse de Marie. Nous avons tous fait un jour face à face à une situation semblable. Nous avions pensé qu'on a tout préparé, tout prévu. Et puis le Seigneur est intervenu dans nos vies, a fait quelque chose qui était contre les règles. Et on a pensé que nos rêves, ça peut vous avoir arrivé, hein, que vos rêves, vos ambitions aient été détruites. Job, il dit ceci dans 14.1. Notre vie est courte et elle est sans cesse agitée. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais rappelons-nous que Dieu est en contrôle de toutes choses et que rien ne lui échappe. Job dit, Dieu est grand, mais la grandeur de Dieu nous échappe. Frères et sœurs, et c'est vrai qu'en vieillissant, je pense que les plus vieux peuvent lever la main aussi. Notre vie est courte et elle est sans cesse agitée. On est jeune, on est rempli d'ambition. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je pensais à 18 ans de renverser le monde, de changer le monde. Et à 36 ans, à travers tous les dégâts que la vie avait fait dans ma vie, que le monde avait fait dans ma vie, eh bien, c'est pas moi qui avais changé le monde, c'est le monde qui m'avait changé. Et heureusement, j'avais gardé un cœur d'enfant, sinon j'aurais accepté le Seigneur, quoi. Jamais, avec tout ce que j'avais vécu. Ouais. Et Dieu permet de changer les règles. Pourquoi? Parce qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Dieu se permet d'intervenir dans nos vies pour que son plan s'accomplisse et qu'il se glorifie à travers chacun de ses enfants. Amen. Oui, la vie de Joseph était littéralement détruite par les nouvelles de la grossesse de Marie. Ce fut un problème auquel Job a dû faire face. Il a perdu tous les membres de sa famille et tout ce qu'il avait amassé dans sa vie. Sa vie ne fut qu'une vie de douleur et d'épreuves, mais la parole nous dit qu'il était intègre et droit. Et malgré les épreuves, on nous dit au chapitre 1, verset 22, qu'il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas dit que Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'a pas dit que Dieu l'aimait moins qu'un autre parce qu'il vivait des épreuves. Mais il n'a rien, le texte biblique nous dit qu'il n'a rien attribué d'injuste à Dieu, quoi. Nous aurons nous aussi à faire face un jour à des moments difficiles et nous devrons aussi apprendre à contrôler ces choses. Sinon, ce sont ces choses qui vont nous contrôler, frères et sœurs. Quel privilège pour ces bergers. On va rester avec Joseph. Verset 20 à 23. Rapidement. Comment Joseph réfléchissait finalement, comme Joseph réfléchissait, pardon, de quelle façon il allait faire face à cette situation, Dieu va envoyer un ange pour parler à Joseph. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne crains pas! Il y a une sœur ici qui vivait des difficultés il y a quelques semaines. La première chose que je lui ai dit, écoute, ne crains pas. Fais confiance au Seigneur. Est-ce que tu as quelque chose à t'approcher? Non? Fais confiance au Seigneur. Ne crains pas. Si tu as quelque chose à t'approcher, ça, c'est autre chose. Confesse ton péché. Va demander pardon à la personne que tu as offensée. Ou si c'est directement avec Dieu, rencontre Dieu personnellement et prends un temps avec lui. Prends un cœur à cœur avec lui. Et vide ton sac. Mais si tu n'as rien à t'approcher, ne crains pas. Car si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Il n'y a personne qui peut t'arracher un poil sur la tête que Dieu ne permettra pas. Avez-vous cette conviction ce matin, frères et sœurs? Ah ouais? Les premiers chrétiens de Rome ont servi de torches pour éclairer les arènes. C'est épouvantable aux yeux du monde. Mais comment pouvaient-ils faire pour être capables de chanter des louanges au Seigneur alors qu'ils étaient enduits de bitume, allumés comme des torches vivantes? Comment pouvaient-ils faire pour chanter des louanges au Seigneur? Ils étaient déjà transportés au ciel, quoi. Dieu leur accorde une grâce spéciale. Dieu ne prend pas plaisir à voir souffrir ses enfants. Ils avaient une grâce spéciale, reçue de Dieu. Et vous savez que le fait de chanter des louanges au Seigneur alors qu'ils étaient en train de brûler, c'était un des facteurs qui a mis fin à toute cette boucherie qui se passait dans les arènes de Rome. À vue humaine, on trouve ça écœurant, quoi. La raison humaine, elle ne peut pas comprendre. Mais Dieu avait un plan pour eux. Et il a utilisé ses frères et sœurs chrétiens, malgré ce qu'ils ont vécu, pour se glorifier. Mais je suis persuadé dans mon cœur que pour louer le Seigneur de cette façon, alors qu'on est en train de brûler, eh bien, en esprit, ils étaient déjà dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, on a déjà vu, hein, dans le passé, la crainte, la peur, c'est une des armes, les premières armes que le diable utilise pour nous neutraliser, nous paralyser. Dieu envoyait un ange pour dire « Joseph ne craint pas parce qu'il était sur le point d'obtenir beaucoup plus que ce qu'il risquait de perdre. » Joseph va découvrir qu'il est celui que Dieu a choisi pour élever le Messie. Il a été choisi par Dieu pour s'occuper de Jésus. Cette tâche à laquelle Dieu l'appelle est un privilège unique dans toute l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs, il arrive parfois que les affectations du Seigneur ont un prix à payer, mais elles rapportent toujours beaucoup plus que les efforts exigés. En fait, juste le privilège que Dieu nous accorde de travailler pour lui dépasse tout ce que nous pouvons saisir. Combien nous lui sommes redevables d'avoir choisi des gens ordinaires pour annoncer l'évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ et mener à bien ses plans. Frères et sœurs, honnêtement, on va terminer avec ça. Honnêtement, il n'y a personne qui est qualifié pour proclamer cette nouvelle, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut dire, « Moi, écoute, je suis moins pire qu'un autre, c'est pour ça que le Seigneur m'a choisi. » Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Le Seigneur a envoyé son Fils sur la terre pour sauver tous et chacun. Pierre nous dit, « Dieu veut que tous parviennent à la repentance. » Frères et sœurs, quelqu'un a cité ces trois clés qui maintiennent notre cœur en paix. Ne vous inquiétez de rien parce qu'il vous aime. Jean chapitre 13, verset 1. Deuxièmement, ne perdez pas courage car Dieu vous prend par la main. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Troisièmement, ne craignez rien car le Seigneur vous garde. Psaume 121, 5. Et frères et sœurs, c'est des paroles qu'on a besoin de s'approprier parce que les deux derniers que je viens de vous donner sont dans l'Ancien Testament. Et les croyants de l'Ancien Testament ont compris des choses qu'on a de la difficulté à comprendre aujourd'hui, quoi. Frères et sœurs, pour David, pour que David puisse sortir des cantiques de louange comme il a fait dans les psaumes, c'est quelqu'un qui avait une relation proche avec le Seigneur, quoi, à travers tout ce que Dieu a permis qu'il vive. Et je ne pense pas qu'on soit appelé à vivre peut-être le 1/100 de ce que David a vécu. Ne vous inquiétez de rien parce que Dieu vous aime. Ne perdez pas courage, il vous tient par la main. Ne craignez pas car le Seigneur vous garde. Y a-t-il de la crainte dans votre cœur aujourd'hui pour ce que vous avez fait dans le passé? Apportez-la à Jésus. Y a-t-il de la tristesse dans votre cœur aujourd'hui parce que quelqu'un qui vous aimait vous a blessé? Apportez-la à Jésus. Êtes-vous découragé, déçu face aux épreuves que vous traversez? Apportez-la à Jésus. Y a-t-il des fardeaux qui sont trop lourds à porter pour vous? Apportez-la à Jésus. Êtes-vous abattu ce matin ou désespéré? Apportez-la à Jésus. Avez-vous vécu des échecs et des défaites récemment? Apportez-la à Jésus. Ne craignez rien, car rien n'est impossible à Dieu. Il peut chasser la crainte et vous donner la paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, nos repos, nos fardeaux, on est appelés à les porter à la croix. En retour, Dieu nous donne du repos. Malheureusement, souvent, on vient porter nos fardeaux, on repart avec notre fardeau, puis on essaye de mélanger ça avec le repos, et on finit par se faire écraser. Il y a un échange qui se fait à la croix. Vous apportez vos fardeaux, et par la foi, vous partez avec le repos qui se trouve en Jésus-Christ. Mais vos fardeaux, vous lui laissez s'en occuper. Frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est bon, et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour être le sauveur de son peuple. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Chantons ce cantique.